Vous êtes sur RTL.
Vous avez très certainement vu ou entendu parler de cette vidéo ce week-end d'un élève qui braque sa professeure dans un lycée de Créteil. Une scène d'une rare violence. Bonjour Gilbert Ribeiro-Picard.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire académique de l'UNSA à Créteil. Bonjour Jean-Paul Brighelli.
Bonjour.
Essayiste et enseignant à Marseille. Merci à l'un et à l'autre de nous avoir retrouvés ce matin pour débattre. Un comité stratégique va se tenir la semaine prochaine entre le ministère de l'Éducation et celui de l'Intérieur. Jean-Michel Blanquer veut, je cite, rétablir l'ordre. Qu'en attendez-vous, Gilbert Ribeiro-Picard, tout d'abord?
Bah écoutez, moi j'ai entendu un petit peu les discours pendant le week-end. Certains discours laissent entendre, et notamment celui du ministre, que l'institution était laxiste jusqu'à aujourd'hui.
Quand on dit à la une du Parisien aujourd'hui en France, nous allons rétablir l'ordre, oui, on peut pas penser à autre chose.
Moi je suis assez dubitatif. Bien entendu, on veut de la fermeté. Mais je suis pas du tout de l'avis que jusqu'à présent il y a eu du laxisme. Par contre, il est évident que la parole, là, elle se libère auprès des enseignants, des collègues. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir pouvoir développer. Il faut que les chefs d'établissement puissent sanctionner de façon systématique et à la hauteur de l'infraction, de ce qui a été commis par les élèves, tous les débordements.
Dans votre première intervention, j'entends, nous profs, on n'est pas laxistes, en fait, ce sont les chefs d'établissement qui, d'une certaine façon, ne faisaient pas leur boulot ou n'allaient pas au bout de la logique de leur responsabilité. Est-ce que je vous ai bien compris? En quelques mots, s'il vous plaît, avant qu'on parte à Marseille.
Tous les chefs d'établissement ne vont pas systématiquement vouloir sanctionner de façon, et signaler de façon, par exemple, devant les instances judiciaires, ce type d'éléments. Moi, c'est les petites violences, les petites brimades, les petites insultes, en fait, qui parfois ne sont pas sanctionnées, parce que c'est le quotidien des collègues.
Et
parce
que, il y en a trop pour que ça puisse être géré, c'est ça?
Oui,
c'est...
En quelque sorte, oui. Pour certains collègues, ça c'est une réalité de terrain, il y a tellement d'incidents qu'on ne les fait même pas remonter au chef d'établissement. Vous voyez, c'est même pas...
Vous voulez dire que c'est tellement rentré dans la vie quotidienne d'un enseignant, dans ses rapports de certains enseignants avec certains de leurs élèves, vous avez raison de le formaliser comme ça, que du coup, on ne le signale plus. Jean-Paul Brighelli, quelle est votre réaction?
Je suis complètement d'accord. C'est-à-dire que selon les établissements, il y a plusieurs standards. Il y a des établissements dans lesquels le moindre haussement de sourcil est immédiatement signalé, et d'autres dans lesquels des insultes graves, finalement... passe comme une lettre à la poste, parce que c'est effectivement le quotidien. Mais c'est là que ça devient très problématique. Globalement, il y a à peu près 6000 incidents par an qui sont signalés. Mmh. Sur ces 6000 incidents, il y en a quand même un certain nombre qui sont des faits de violence physique réelle. À noter d'ailleurs que...
442 par jour, hein, selon l'ADEP. Hein.
Voilà. Dans leur très très grande majorité, les cas de violence physique sont plutôt le fait des parents. Hein, et dans leur grande majorité, ça concerne surtout le primaire.
Alors, dites-moi, on est mal parti quand le ministre dit que ça doit se régler d'abord avec les parents.
Eh bien oui, ça doit se régler effectivement avec les parents, c'est-à-dire qu'il faut responsabiliser les parents. Et là, alors là, il faut bien comprendre une chose.
Ça fait 30 ans que je fais ce métier et ça fait 30 ans que j'entends ça. Excusez-moi de vous interrompre, Jean-Paul Brighelli.
Mais c'est vrai. C'est vrai, et de surcroît, ça s'est accru depuis 30 ans, depuis en fait que la loi Jospin a donné la parole aux élèves et a sacralisé la parole des élèves. La violence, ça commence là. Ça commence dans la contestation de ce que dit l'enseignant, dans le mépris que l'on a de plus en plus pour la parole professorale. Pour ça, c'est un premier point. Deuxièmement, il y a des situations de l'extérieur des établissements qui s'importent dans l'établissement. Comprenez bien que un jeune qui a un flingue, qu'il soit factice ou non, c'est un jeune qui appartient à une bande ou qui aspire à devenir le caïd. Hein, de surcroît, là, c'était manifestement calculé avec le copain qui filmait.
Bien sûr, puisque c'était filmé avec le copain derrière qui fait des lois d'honneur.
Voilà. Je vous rappelle au passage que théoriquement, pas théoriquement, une loi a été votée pour interdire les portables dans le primaire et dans les collèges. Pourquoi ne pas l'avoir interdit au lycée? Hein, alors qu'il y a des lycées qui l'appliquent et qui l'appliquent sans aucun problème. Alors, ça, c'est un premier point.
Je crois qu'on est à peu près d'accord sur le constat. La question que je vous pose à l'un et à l'autre, c'est qu'attendez-vous tout simplement de ce qui est annoncé comme un comité stratégique? Stratégique, c'est quand même un mot qui a un sens, entre un ministre de l'Intérieur et un ministre de l'Éducation nationale, avec Jean-Michel Blanquer qui nous dit aujourd'hui, à la une d'aujourd'hui en France, nous allons rétablir l'ordre. Gilbert Ribeiro-Picard.
Rétablir l'ordre, c'est aussi mettre des moyens humains des moyens financiers en éducation nationale. Et moi, ce que je constate, c'est que on n'a pas forcément mis la priorité sur le recrutement des enseignants titulaires, que le nombre d'assistants d'éducation, il est en constante diminution, que le nombre d'agents territoriaux pour les cantines, etc., il est aussi en diminution, et qu'on a besoin d'adultes, pas forcément de professeurs, mais d'adultes dans les établissements. Et puis, je prends un exemple, le classement des sensibles n'existe plus depuis des années. On n'a plus que des collèges REP, REP plus, avec des moyens supplémentaires, mais les lycées, on considère que tous les lycées de France sont des lycées normaux, classiques, qui n'ont pas besoin de moyens spécifiques. Et là, je pense que c'est une erreur.
Qu'en pensez-vous, Jean-Paul Brigali?
Je pense que ce genre d'incident ne va pas aider au recrutement de nouveaux enseignants qui déjà se font tirer l'oreille pour faire un métier qui est incroyablement mal payé. Je rappelle que les enseignants sont les plus mal payés d'Europe, à part les Bulgares. Vous voyez, un enseignant du Luxembourg gagne très exactement 2,5 fois plus. Voilà, pour un temps de travail qui est absolument équivalent dans les faits. Alors, il faut appeler les choses par leur nom. Il y a une question de moyens, il y a une question en même temps de resacralisation de la parole enseignante.
Oui.
Comme nous sommes de plus en plus estimés en fonction de ce que nous gagnons, les uns et les autres, il est évident que quand on commence à 1500 euros par mois, les élèves qui gagnent ça en une journée en vendant du shit, n'ont pas un respect fondamental.
Vous nous dites que certains élèves ne nous respectent pas parce qu'ils savent ce qu'on gagne, et en gros on passe pour des minables, c'est ça ?
Bien sûr, mais c'est pas certains élèves, c'est tous les élèves savent ce qu'on gagne. Ça s'étale de tous les côtés, et alors je m'en voudrais d'être d'accord avec un responsable de l'UNSA, non, je plaisante. Mais il est évident qu'il faudrait une augmentation initiale, hein, d'au moins 50% pour que le métier soit à nouveau attractif, pour que des nouveaux enseignants que l'on met prioritairement dans les établissements les plus difficiles, ce qui est une aberration absolue, et envie quand même d'aller au charbon le matin. C'est un métier qui a 17% de burn-out contre une moyenne de 11% de façon générale au niveau français.
Je vais vous choquer, ça sera ma dernière question, Gilbert Ribeiro-Picard. On peut accueillir tout le monde à l'école ? Vous croyez qu'on peut réellement accueillir tout le monde aujourd'hui à l'école ?
On doit accueillir tout le monde.
Mais ça, on est d'accord sur le projet, mais est-ce que c'est encore possible ?
Tout le monde. Mais moi, je reviens sur cette question de moyens. Moi, je suis secrétaire entrée métier. Ça veut dire que je m'occupe des jeunes enseignants qui sont stagiaires et qui sont ce qu'on appelle T1, T2, des entrants dans le métier. Et je peux vous dire qu'ils sont très motivés.
Donc, vous les accompagnez dans leur premier pas.
Tout à fait.
Et vous nous dites qu'ils ont choisi leur boulot.
Ils ont choisi leur boulot, okay. Mais en même temps, aujourd'hui, un enseignant qui commence en Île-de-France, c'est quelqu'un qui est pauvre. Donc voilà, le problème, il est là. On ne peut pas se loger, on ne peut pas vivre décemment. Et comment voulez-vous attirer ? On n'arrive pas à recruter des profs de maths, on n'arrive pas à recruter des profs de techno. Il en manque des milliers. Donc ça pose un vrai, vrai problème. C'est un problème de société. Tant qu'on n'aura pas valorisé le métier d'enseignant, on n'aura pas donné les moyens financiers à ce qu'on attire des gens compétents, des gens encore plus motivés. On a des gens très motivés, mais beaucoup abandonnent en cours de route. Parce que c'est un métier difficile, exigeant.
Merci beaucoup, Gilbert Ribeiro-Picard. Je rappelle que vous êtes secrétaire académique de l'UNSA à Créteil, et Jean-Paul Brigali, lui, est enseignant à Marseille.